nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. L'œuvre ultime, la dernière peinture, la dernière pièce de théâtre, encore la dernière composition musicale, il semble qu'à chaque fois, la souffrance de ces artistes à l'aube de la mort transparaît dans leur création. L'œuvre ultime et la médecine, c'est le titre de la 8e journée du livre médical, le 17 septembre 2010, à l'Académie nationale de médecine à Paris. Et pour nous parler du programme de cette journée, où l'on y retrouve notamment Philippe Bosson sur le Titien, Patrick Dandré sur la mort de Molière ou encore Pierre Schneider sur Matisse, le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine est avec nous, Jacques Lubinet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous d'où vient ce terme d'œuvre ultime ?
Il vient de Chateaubriand, c'est très intéressant. Chateaubriand, ambassadeur de France à Rome, voit les derniers poussins et dit, non pas tout à fait, il vient de Chateaubriand en deuxième temps. Il vient en fait de Guétin-Picon. Mais Guétin-Picon est parti d'un mot de Chateaubriand qui, voyant après la mort de Poussin, bien après la mort de Poussin, il est ambassadeur de France à Rome, il voit les poussins et il dit « admirable tremblement du temps ». Et c'est ce terme que va reprendre Guétin-Picon dans un livre admirable, pour reprendre le terme admirable, où il montre que le temps joue un grand rôle dans la peinture, non seulement parce que les œuvres vieillissent, parce que tout s'effrite, vous voyez, une sorte de banalité sur le matériau, mais parce que le peintre même change. Et quand à la fin de sa vie, il voit que peut-être pas les jours sont comptés, mais que les choses ont changé, eh bien il va réaliser peut-être autre chose qui prend ce terme d'œuvre ultime, discutable, parce que d'abord il y a souvent plusieurs œuvres ultimes. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que la maladie est presque toujours là.
Alors, quelle est la maladie de Poussin qui transparaît dans ses dernières œuvres ?
Le tremblement. Le tremblement, le Poussin tremble depuis 4 ou 5 ans. Il masque un petit peu, mais c'est très visible, paraît-il, d'après ceux qui ont raconté sa vie. Et il n'acceptait pas qu'on le voit peindre. Alors qu'au début, autrefois, les gens prenaient presque des leçons de peinture. Là, fini. Et alors, son réflexe, est... alors il voit qu'il tremble, il lutte contre ce tremblement et il écrit un texte admirable que je ne vais pas vous réciter vraiment parce que je ne l'ai pas devant moi. C'est que ma main tremble, mais la peinture n'est pas faite par la main, elle est faite par le cerveau et ma tête continue à diriger ma main. Oui, ça c'est... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les derniers tableaux, je crois que ça se voit, difficile à voir. Mais les grands critiques français ont vu que, par exemple, une de ses dernières séries, qui s'appelle « Les saisons », le dernier tableau, c'est peut-être pas le dernier, on ne sait pas comment il les a peints, qui s'appelle « L'hiver », c'est-à-dire le déluge, c'est-à-dire une sorte de fin du monde. Eh bien, ce qui l'intéressait le plus, c'était les têtes des personnages et les mains et les extrémités. Et c'est là où on peut percevoir... pas un tremblement, mais une certaine hésitation, en particulier dans le traitement de la couleur. Il ne peut plus modeler, alors que c'était le roi. Ses traits ne sont plus vraiment droits. Donc, on perçoit quelque chose d'autre, qui donne d'ailleurs à sa peinture un aspect, si je puis dire, presque sentimental, ce qu'a rarement Poussin, mais presque une confidence. Voilà.
Alors, si vous en parlez aussi bien, c'est parce que, je le précise pour nos auditeurs, vous avez été aussi professeur à l'école du Louvre.
Oui, mais j'enseignais à l'art moderne. Donc, je n'ai fait que lire... Toute la France s'est intéressée à Poussin. Et vraiment, la grande critique d'art s'est intéressée à Poussin. Des gens comme Franck Castel sont énormément intéressés à Poussin. Toute la France s'est intéressée à Poussin. Le Poussin, c'est le Louvre. Bon, vraiment, tous les gens du Louvre connaissent Poussin par cœur. C'est un peintre difficile. Ce n'est pas un peintre qui se montre. C'est un peintre qu'il faut approcher peu à peu et qu'on apprend à connaître progressivement.
En tout cas, nos auditeurs l'auront compris, si vous en parlez aussi bien, c'est aussi parce que c'est vous qui allez gérer cette première conférence consacrée à Poussin, d'après les propos de Gaëtan Picon.
Exactement. Alors, je trouve que ce thème était... Tous les ans, on organise quelque chose entre, finalement, la médecine et la culture. Et là, la médecine est très présente, si vous voulez, dans l'œuvre du peintre. C'est sûrement pas elle qui l'explique, c'est beaucoup plus compliqué, les rapports. Mais... ou plutôt, le peintre va lutter contre la maladie. Mais peut-être que s'il n'avait pas été malade, il aurait peut-être pu faire la même chose. C'est peut-être une espèce de sensation de liberté qui fait que pour certains peintres, ce n'est pas constant du tout, leur œuvre ultime est un peu différente du reste de l'œuvre. Voilà, c'est pour ça que je trouve que la médecine était très impliquée. Et pourquoi pas Poussin ? Alors, le Titien, c'est encore plus caricatural.
Alors, un autre terme, hein, chant du cygne, une autre manière de présenter l'œuvre ultime, c'est aussi un des titres de l'ouvrage de Philippe Bossan, qui est un
merveilleux ouvrage, tout petit ouvrage, qui comporte très peu de pages. C'est très... Et alors, Philippe Bossan, c'est pas du tout un écrivain d'art, c'est un musicologue que je n'ai jamais vu. J'en ai fait que le lire, il a eu la gentillesse d'accepter de venir à l'Académie. Et son livre est vraiment un petit chef-d'œuvre, où il compare à la musique du temps, mais il a pris le Titien à la fin, c'est-à-dire le Titien juste avant la peste de Venise. Vous voyez, la catastrophe sur la ville des couleurs.
Donc il peint la Pietà.
La Pietà qu'on appelle la Pietà de Venise, je ne sais pas trop comment ils font l'appeler, je crois qu'on dit la Pietà de Venise parce qu'elle n'est pas sortie de Venise. Et lui qui était le peintre de la sensualité, de la femme, des corps langoureux, lui l'homme des pinceaux, bon, représente, c'est plus un paysage, ou plutôt c'est un paysage de pierre, ouais, c'est la pierre qui est derrière. Les personnages sont, vous le devinez, complètement effondrés. Il y a une Marie-Madeleine qui paraît comme sortir d'une pièce de Shakespeare. La Vierge, on ne la voit pas très bien. Et le Christ, eh ben, l'image de la tristesse. Alors, ce qu'il y a de plus intéressant, et ça, je crois que Philippe Bossan l'a vu, je crois que c'est lui qui l'a vu, en tout cas, il l'explique admirablement, c'est qu'à côté de ce tableau très dur, superbe, mais très dur, peint d'une manière très classique, en bas et à droite, il y a une tache. Il y a quelque chose. Il y a un endroit qui est en réalité, quand ils ont repris l'œuvre de plus près, ils sont aperçus qu'il ne s'agit pas du tout d'une tache, que c'était la trame de la toile, et qu'à la fin de sa vie, quand la toile avait été faite, le Titien, l'homme des pinceaux, c'était le Titien, Charles Quint lui présentait ses pinceaux avec ses mains. Il n'y a que les peintres modernes qui font n'importe quoi avec leurs mains. Lui, il n'était pas question du temps du Titien de ne pas prendre le pinceau qu'il maniait comme une épée. Enfin bon, avec ses mains sont remplies de couleurs, il se peint lui-même en prière. Vous voyez, en prière. C'est-à-dire qu'au fond, sur le tableau, il y a ses empreintes digitales. Lui, l'homme de la sensualité, du plaisir, du désir, de la beauté de la femme, au dernier moment, tout ça c'est fini, on prie. C'est assez admirable. Et il va mourir très vite. Alors, j'ai fait venir aussi un médecin pour nous dire un peu, parce qu'on parle des épidémies en France, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais la peste de Venise, c'était une horreur où la ville était décimée. Il semble bien que Poussin n'était pas malade quand il a peint la toile, mais qu'il soit mort de la peste.
Il l'a terminée, sa toile ? J'ai cru qu'il ne l'avait pas terminée.
Ah oui, il l'a terminée. Pardon, voilà. Elle est terminée avec cette tache à droite qui a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez ? Alors, je ne sais pas. C'est compliqué l'histoire de la peinture. Quand a-t-on découvert la vraie signification de cette tache ? Très longtemps, on a dit à droite, il y a une tache. Il faut s'approcher pour le voir.
Donc, Philippe Bossan nous parlera.
Alors, c'est merveilleux, merveilleux, je peux vous dire, dans le contexte de la peste, ça sera fascinant, je pense.
Un autre conférencier nous parlera des pastels de Chardin. Pourquoi parler des pastels de Chardin ?
Là aussi, c'est très, très, très peinture française. Et l'homme de Chardin en France, c'est M. Rosimbert. Très longtemps, on a considéré Chardin comme un peintre des natures mortes, d'un certain milieu, qui n'est pas encore la noblesse, qui va peut-être l'être. Cette manière de vivre, juste avant la Révolution française, l'ascension d'une classe sociale, disons un Chardin un peu social, si vous voulez. Bon. Et puis, lui aussi est malade, il ne peut plus peindre, et il découvre le pastel, qui est plus facile à manier que le pinceau, et où va mieux. Et coup de chance extraordinaire. Qu'est-ce qu'il représente dans ce pastel ? D'abord lui-même. Et trois épreuves de lui-même qui vieillissent. Pas les tableaux, mais lui vieillit. Et là aussi, hasard magnifique, la personne qui a mieux décrit l'évolution de ces pastels et a su le mieux les analyser, c'est quand même Proust. Pas du tout pour la recherche du temps perdu. Il va l'utiliser. Parce qu'il dit un petit peu qu'est-ce que doit être la vieillesse. Mais devant le tableau, il est vraiment comme le plus fidèle des critiques d'art. Et il décrit tout, le visage, les lunettes qui changent d'aspect, la peau qui change un peu de couleur, l'habit qui est vraiment l'image de la peau, si vous voulez, et puis le regard. Regard un peu hautain au début, pas hautain, oui, un peu au-dessus des autres, de Chardin. Ensuite, le regard qui lutte contre la lumière, et il a presque un protège-lumière, vous voyez, parce que même à Paris, il peut y avoir une lumière très très forte. Et puis à la fin, peut-être un regard un peu triste, surtout un regard qui fixe le crayon de pastel. Et le dernier pastel, il se veut peindre au travail. Il sent que la mort va être proche, et bien il veut se peindre au travail, et il regarde son crayon de pastel.
C'est Pierre Bouraglio, qui est artiste contemporain, qui parle de Chardin.
Toute la France est imbattable sur Chardin. Je suis le plus mauvais pour en parler. Toute la France, toute la critique d'art à son interprétation. Mais ça m'intéressait un peu que ce soit un peintre. D'autant qu'il a fait travailler ses élèves sur ce sujet. Il était professeur aux Beaux-Arts. Je ne sais pas très bien ce qu'il va dire, pour vous dire la vérité, parce qu'il m'a donné un texte qui est un peu lointain et qui est tout à fait lointain de l'œuvre ultime. Mais il aime la peinture, il aime beaucoup Chardin. Donc, il va peut-être nous donner, peut-être, une nouvelle idée originale sur ce travail terminal. On ne parlera pas de l'arrêt de Chardin, on ne parlera pas de son arrivée à l'Académie, on parle de sa fin, fin à laquelle il associe sa femme, parce que parmi les pastels, il y a celui de sa femme. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est à deux pas de l'enregistrement où nous sommes. C'est de l'autre côté du Louvre.
De l'autre côté du Pont des Arts.
De l'autre côté des Ponts des Arts, sur un couloir qu'on appelle le couloir des poules, parce qu'il est un peu sombre et il faut protéger les pastels. Grand privilège français.
Un autre conférencier, Pierre Schneider, va nous parler d'Henri Matisse. Alors, Pierre Schneider,
c'est un mythe, Pierre Schneider, c'est l'homme de Matisse.
Il a rédigé un livre sur Matisse qui a fait date et qui a été depuis réédité.
Oh, non seulement il l'a rédigé, mais il l'a écrit pendant des années. Ça a été, le livre doit avoir 600 pages, enfin c'est une somme. Bon, et là encore le côté médical, parce que je reprends le côté médical, en 1941... Matisse, qui vit à Nice, et entre Nice et Vence, mais je crois qu'à ce moment-là, il est à Nice, a une tumeur abdominale. Il est opéré par les meilleurs chirurgiens qui soient à Lyon, et une opération très grave, où les chirurgiens se demandent ce qui va arriver. Finalement, il s'en sort très bien. Il revit, il leur dit « Grâce à vous, vous m'avez donné un sursis, mais sa vie a un peu changé quand même. » Et puis arrive une complication qu'on voit moins maintenant, mais qui existe toujours, qu'on appelle l'éventration, c'est-à-dire que peu à peu, les muscles abdominaux se desserrent l'un de l'autre, se relâchent, et dès qu'il est debout, sort le péritoine, si vous voulez. Donc, il est obligé, quand il veut rester debout, de prendre une ceinture très astreignante, qui rend même la respiration difficile, et qui l'empêche de rester plus de, je ne sais pas, 40-45 minutes debout. Donc il va vivre pendant de 41 à 54, il meurt à 54, et c'est une vie très active. Bon, pendant 13 ans, il va vivre avec cette infirmité abominable dont on ne parle pas beaucoup, mais vous regardez les clichés, il est soit dans son lit, soit sur une chaise roulante. Bon, sauf quand il voit des tableaux qui seront faits pour Vence, où il monte même sur un escabeau. Mais enfin, d'ailleurs, il le dit. Alors, tout ce travail s'est fait avec le secours d'une femme qui s'appelle Lydia, je ne sais quoi, qui a un nom russe, qui a travaillé avec lui depuis 37-38 et qui va le suivre jusqu'à sa mort et qui l'oblige à travailler parce que Matisse est un homme comme les autres. Il travaille comme un chien. De temps en temps, il a la flemme. Mais non, tous les matins, au boulot, et il continue. Alors, la période admirable des papiers découpés, la période de Vence, qui commence par un livre qui s'appelle Jazz, tout un jeu entre les images et la lecture. Matisse était quelqu'un très intéressé par la littérature, de très collé au livre. Alors, pour nous expliquer tout ça, grande chance, Pierre Schneider. Bon, je ne le connaissais pas, mais je l'avais beaucoup lu. Et pour vous dire la vérité, je croyais qu'il ne travaillait plus. Il travaille comme un chien. Il est toujours très jeune. Et pour vous montrer sa qualité, il ne veut pas reprendre ce qu'il a écrit dans le livre pour le 17 septembre. Il veut toujours arriver à la même conclusion qui est l'œuvre ultime, mais dans un autre contexte que l'abdomen de Matisse. Vous voyez le talent.
Et nous pourrons donc l'écouter le 17 septembre. Parlons rapidement des autres conférenciers, car le temps passe et on ne peut pas parler de tout. Précisons quand même qu'il y a une conférence sur Hans Hartung, qui était à l'Académie des Beaux-Arts. C'est Odile Burlerot qui parlera de Hans Hartung.
Elle le connaît très bien.
Quelle était son infirmité ?
Son infirmité, c'était une jambe coupée. Il est allemand. Il s'est engagé à la Légion étrangère pour lutter contre les Allemands. Voyez là, cette francophilie extraordinaire. Bon, il rentre dans la Légion étrangère pour la campagne d'Alsace. Hein. Il ne rentre pas pour aller dans une caserne. Il a une jambe coupée et quand il revient en France, c'est un des premiers abstraits français. Bon, peut-être pas historiquement, etc. Et ensuite, après, il a un accident vasculaire et il continue à travailler. Et elle vous montrera un film où on le voit jeter son jet sur des toiles alors qu'il est là vraiment très fatigué, très âgé. Il fait ça la nuit. Il assomme tout son entourage parce qu'il arrive à mal dormir la nuit. Il veut travailler la nuit. Et pendant 2 heures la nuit, il jette son jet et il réalise en 3 ans, je crois, plus de 300 toiles.
C'est des toiles violentes.
Comment ?
D'une violence.
Ah oui, ça c'est vraiment la violence et la volonté et la lutte contre la maladie. La lutte absolue contre la maladie. Sa femme était morte quelques années avant, juste au moment où il revenait de l'opération, je crois. Mais l'horreur, quoi. Et la lutte contre la maladie, avec la seule chose qui l'intéresse, c'est le travail. Et ça, c'est un peu un des points communs de l'œuvre ultime. Même chose pour Bernard Buffet. Bon, on en dira bon, 4
autre
mots.
Autre conférence qui porte sur Bernard Buffet, c'est le galeriste attitré, Maurice Garnier, qui parlera
de Maurice Garnier sera
Bernard
là.
Buffet.
Maurice Garnier, son marchand fidèle, qui ne l'a pas quitté depuis les premiers Bernard Buffet, et presque 2 parties. Premièrement, un cérémonial de la mort, moi qui me trouble beaucoup. Alors, lui aussi tremblait. Bon, il avait une maladie de Parkinson. Puis, il se casse le poignet, une fracture qu'on appelle de Poutocol. Donc, c'est vrai que le mouvement de la main est encore plus difficile. Il sent qu'il va mourir. On est en 2009 et il a dit « je ne peindrai plus en 2010 ». Après, je m'arrête. Pas de zéro. Je m'arrête en 2009. Il finit 12 toiles sur la mort. Il prépare Buffet, exposé toujours en février. Il prépare l'été et à la fin de l'été, l'exposition pour février, c'est-à-dire que toutes les toiles sont faites. Il demande à sa femme un texte. Tout est prêt. Le catalogue est prêt. Et puis, il peint aussi un merveilleux paysage de Bretagne, qui était le pays d'adoption. Quand il était enfant, la mer, c'était la Bretagne, avec des oiseaux. On ne sait pas très bien si ce sont des corbeaux ou non. Alors, si vous voulez, pour lui, à mon avis, il y a presque le cérémonial de l'œuvre ultime qui est terrible, parce qu'ensuite, il va se tuer. Une fois que tout est fini, il téléphone à Maurice Garnier, les toiles sont arrivées, le texte est imprimé, très bien. Pas de commentaires. Et il se tue l'après-midi et sa femme le trouve mort dans son atelier alors qu'il avait dit qu'il fallait le laisser tranquille parce qu'il voulait finir des choses. Mais il laisse 2 choses. Premièrement, ce cérémonial qui est tellement violent qui nous impressionne un peu. Enfin, moi, il m'impressionne beaucoup. Mais picturalement, je préfère peut-être les derniers tableaux de Bretagne qui ont été faits en même temps. Ou alors là, c'est il se libère. Il peint ce qu'il aime. Il peint ce qu'il a aimé dans sa jeunesse et il retrouve là un talent assez exceptionnel avec ces oiseaux qui pourraient être ceux de Van Gogh. Enfin, vous voyez, c'est la mer déchaînée, la Bretagne. Et ce qui montre bien que l'œuvre ultime, d'abord, elle n'existe pas toujours. Elle est variable pour chaque peintre. Et elle va s'exprimer à chaque fois d'une manière différente. Et puis, de temps en temps, elle se fait dans le silence. Beaucoup de peintres meurent sans avoir fini quelque chose.
Et puis, citons les autres conférenciers pour terminer cette émission. Donc, Marie-Laure Bernadac avec Yann Peiming sur la célébration des funérailles de la Joconde. C'est Yann Peiming qui avait fait des représentations de funérailles de la Joconde. C'était au Louvre. Également, à l'écoute de Jean-Louis Prat et des sculptures de Gustave Moreau. C'est vous qui avez animé cette conférence.
Oui, parce que Jean-Louis Prat, c'est lui qui a eu l'idée. Il a organisé en 89, je crois, une exposition à la Fondation MAC, quand il la dirigeait, aussi glorieusement qu'il la dirigeait, une exposition sur l'œuvre ultime. Alors, j'ai pris le même terme, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas d'autres, en les traitant un peu différemment. Et lui insistait moins, il avait raison sur le côté médical, mais sur l'originalité de l'œuvre picturale. Et puis, il y a aussi, alors très intéressant, William de Koenig, qui a une maladie d'Alzheimer. Mais il ne faut pas parler de maladie d'Alzheimer quand on parle de Koenig, parce que la famille, ou maintenant la fondation, ne veut pas qu'on prononce ce mot. Donc, disons des troubles de la mémoire. Et on voit comment sa peinture, qui était une grande peinture, il est hollandais, mais on appelle ça la peinture américaine. Il était un de ceux qui a dominé la peinture américaine. Et on voit comment, au contact de la maladie, cette peinture change.
Enfin, dernière conférence avec 2 membres de l'Académie de médecine, Jean-Louis Michaud et Bernard Le Chevalier, pour Solitude Bartok. C'est pour évoquer donc, la leucémie du compositeur.
Exactement, je ne suis pas musicien, mais les deux le sont. Et Jean-Louis Michaud, qui est à la fois musicien et en même temps hématologiste, était capable de retrouver dans les documents du Saint Sinai Hospital à New York l'histoire de la maladie, auquel malheureusement les Américains ne donnaient pas encore de nom, parce que l'hématologie était moins claire que maintenant. Donc l'évolution est parfaitement définie, d'une façon tout à fait moderne. Et puis et le dernier tableau qu'il a composé, il écrit « fin », et ça s'écrit dans sa langue natale, je ne sais pas comment ça se dit, « fin ». Il part à l'hôpital, il meurt deux jours après. Ce n'est pas marrant ce que je vous dis, mais c'est très glorieux, c'est superbe. Et je trouve que ça donne à l'œuvre une autre portée, enfin une certaine dimension. En sachant bien que ce n'est pas la mort qui explique quoi que ce soit, mais que ces gens qui sont très pressés de faire quelque chose, on sent la pression. Je crois qu'on sent la pression. Y compris s'il la provoque. Bernard Buffet, c'est lui qui la provoquait. Personne ne lui demandait de se suicider. Oui. Les autres, la maladie arrivait, mais il y a cette espèce de course avec le temps. Et le musée d'art moderne de la ville avait pris le même thème en donnant un terme américain, « deadline », c'est-à-dire « temps limite », qui est le terme qu'on emploie pour nos articles, pour nos, enfin, dans notre métier.
Alors tout ça a lieu le vendredi 17 septembre 2010 à l'Académie nationale de médecine à Paris et ça s'intitule « L'œuvre ultime et la médecine ». C'est ouvert au public, c'est libre et c'est à partir de 9h30 jusqu'à 17h30. Merci Jacques-Louis Binet, on espère voir beaucoup de monde à cette journée du livre médical. Et puis nous invitons également nos auditeurs à écouter une émission avec Patrick Dandres sur la mort de Molière, qui est aussi un des conférenciers
qui présentera bien ce qui se passera l'après-midi. C'est surtout moi qui dois vous remercier d'avoir présenté cet après-midi, qui pourrait être une après-midi glorieuse, j'y suis pour rien, mais les intervenants sont formidables, moi j'ai rien à faire.
Merci, et alors on l'espère, à très vite pour nos auditeurs à l'Académie de médecine. Merci.